But my lord, if it needs be, it is an ideal for which I am prepared to die.
Nicolas Champeau, bonjour.
Bonjour.
Grâce aux archives sonores du procès de Rivonia, près de Johannesburg en 1964, vous venez de réaliser un reportage documentaire extraordinaire sur ce moment où Nelson Mandela, Walter Sisulu et leurs 7 compagnons ont échappé d'extrême justesse à la condamnation à mort. On vient d'entendre cet instant pathétique hein, où Mandela, au nom de tous les 9, déclarait « bien si je dois mourir, je suis prêt à le faire ». Ce que vous montrez, c'est qu'au-delà du procès en justice, les 9, Mandela et ses compagnons, ont voulu placer tout de suite le combat sur le terrain politique.
Oui, au risque de leur vie, car ce faisant, ils aggravaient leur cas quelque part. Mais ce procès était finalement, pour des hommes politiques de leur envergure, un cadeau, ironiquement, parce que il y avait des journalistes qui ont assisté au procès, il y avait des ambassadeurs des États-Unis, de Grande-Bretagne. Et il faut savoir qu'au moment du procès, l'ANC était banni, le Parti communiste était banni, les accusés étaient soit dans la clandestinité, soit personnellement bannis. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'avaient pas le droit d'organiser de réunions publiques, ils n'avaient pas le droit d'imprimer des tracts, ils n'avaient pas le droit de parler à des journalistes, ils n'avaient même pas le droit de communiquer entre eux. Dans un tel contexte, c'est très dur de mobiliser et de diffuser ces idées. Et là, enfin, grâce au procès, c'était possible. Et donc, ils ont saisi cette opportunité et ils ont transformé ce procès pour en faire une tribune contre l'apartheid.
Vous avez retrouvé les 2 avocats des accusés. Ils sont très touchants d'ailleurs et ils reconnaissent qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux sur la question de savoir s'il fallait que les accusés s'expriment beaucoup ou pas.
Alors effectivement, Georges Bizos, qui est resté l'avocat de Mandela jusqu'à sa mort, se disait qu'en fait, il fallait prouver aux juges, mais aussi aux ambassadeurs finalement, que Mandela et les autres étaient des hommes articulés, raisonnables, qu'ils avaient mûri leur plan, que c'était des êtres humains comme vous et moi, parce que le procureur et le régime, par l'intermédiaire des médias notamment, les présentaient comme des terroristes rouges et barbares. Et les Américains qui ont entendu parler Mandela lors du procès, qui ont entendu Sisulu parler lors du procès, qui ont entendu Ahmed Kathrada parler lors du procès, se sont dit mais en fait ils n'ont pas du tout l'intention de jeter tous les blancs à la mer. Mandela dit lors du procès Rivonia qu'il souhaite œuvrer pour une Afrique du Sud arc-en-ciel réconciliée où les différentes races vivraient en harmonie.
Votre long métrage documentaire Nicolas Champeau, ben il sort cette semaine en DVD. Hein. Il était en sélection officielle au dernier festival de Cannes et il est nominé cette semaine au César d'après-demain. Vendredi, on découvre dans votre film que le procureur est juif pratiquant, hein, et c'est son propre fils qui, les larmes aux yeux, reconnaît que son père a été le défenseur zélé d'un régime raciste très proche idéologiquement du régime nazi. C'est incroyable, ça.
Oui, et d'ailleurs, le fils du procureur au début avait refusé de nous rencontrer. Il nous a dit ce procès m'a traumatisé, et on le comprend. C'est pas facile de se présenter en Afrique du Sud et de dire mon nom est David Yutar, je suis le fils du procureur qui a cherché à envoyer Nelson Mandela à la guillotine. Mais il a eu le courage de nous rencontrer. Il nous a expliqué, oui, que son père était d'extraction sociale modeste. Son père était boucher. Il était juif dans un pays où les dirigeants étaient antisémites. Mais il voulait réussir. Il voulait réussir sa carrière. Et il voulait se prouver et prouver qu'il était possible d'être juif et d'accéder à des fonctions très élevées. Et donc, il va au-delà presque de ce qu'on attendait d'un procureur. Et il fait quelque part l'erreur de porter le combat sur le terrain politique. Parce qu'il avait des pièces à conviction contre les accusés. Ça aurait pu suffire pour les envoyer à l'échafaud. Mais il joue. Il ne résiste pas à la tentation de les amener sur le terrain politique. Sauf qu'il a en face de lui des professionnels de la politique qui sont du bon côté de l'histoire. Et ce sont eux qui gagnent.
Et il y a un moment complètement fou dans votre film, ça s'est vraiment passé pour de vrai, c'est ce moment où l'un des 9 accusés, Ahmed Kathrada, qui est indien, raconte devant ce procureur juif, hein, qui veut l'envoyer à la potence, qu'il est allé à Auschwitz, lui Ahmed Kathrada.
Oui, Ahmed Kathrada a visité Auschwitz en 1951, et c'est son avocat, feu Bram Fischer, qui l'a encouragé à raconter cette visite, pour que le juge, et peut-être pour que les ambassadeurs et le reste du monde, comprennent les raisons de l'envoi l'engagement d'Ahmed Kathrada et à travers lui les raisons de l'engagement des autres. Et donc il dit au juge, je veux que vous compreniez pourquoi il se trouve aujourd'hui sur un banc d'accusés. Et pour ce passage, au début, on avait demandé au dessinateur, Ourde, de nous faire des propositions.
Il faut préciser, Nicolas, que comme ce procès a été enregistré mais pas filmé, vous repassez les extraits sonores de ce procès historique avec les dessins extraordinaires, les dessins animés de Ourde.
Oui, le procès a été enregistré, il y a 256 heures d'archives sonores, mais il n'y a pas d'image, il n'y a pas une seule photo. Alors on s'est dit, un procès, en revanche, on peut le dessiner. Il y a souvent des dessinateurs de presse. Donc on a choisi de faire appel à Ourde, qui réalise la création graphique du film. Dans le film, il y a 40 minutes d'archives sonores. Au début, Ourde nous avait fait une proposition, on voyait un train qui arrivait à Auschwitz, et on s'est dit, mais ces images, on les connaît toutes finalement, le dessin n'apporte pas grand-chose. Filmons plutôt Kathrada avec un casque audio sur les oreilles.
Le Kathrada d'aujourd'hui.
Le Kathrada d'aujourd'hui, qui écoute pour la première fois d'ailleurs cette bande, 57 ans après, et on y voit l'émotion de Kathrada alors qu'il décrit sa visite d'Auschwitz. C'est une visite qui le conforte dans son choix de lutter contre le racisme et l'antisémitisme jusqu'à la fin de sa vie. C'est ce qui dit à l'avocat, c'est ce qu'il dit au juge lors du procès Rivonia.
Alors il y a Kathrada, il y a Mandela, et puis il y a Sisulu, qui, à un moment, est poussé dans ses retranchements par ce fameux procureur.
How do you know? They arrested my wife, they arrested my son.
Yes.
I have been persecuted by the police. I wish you were in a position of an office. I wish you were an African and know the situation in this country.
J'aimerais que vous soyez ne serait-ce qu'un jour dans la peau d'un Africain, dit Sisulu à Percy Yutar, le procureur. Là, vraiment, c'est les tripes qui sortent.
Oui, Sisulu sort de ses gonds. Et c'est pas habituel pendant le procès parce que d'habitude, les accusés sont calmes, sereins et courtois. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que c'est le procureur qui a toutes les cartes en main, qui est hystérique et énervé, alors que la sérénité, on la trouve plutôt chez les accusés. Mais là, Sisulu sort de ses gonds parce que le procureur vient de dire que la police n'arrête pas les gens de façon indiscriminée. Sisulu dit, mais vous plaisantez, vous m'avez arrêté 6 fois en 62, vous avez arrêté ma femme, vous avez arrêté mon fils. Et c'est vrai que la police avait même arrêté son fils de 15 ans pendant le procès, au titre qu'il n'avait pas de passe. Et donc, Sisulu s'énerve, et c'est un passage, pour moi, c'est l'un des passages les plus émouvants du film. Et d'ailleurs, on consacre plus de temps à Sisulu qu'à Mandela. Je crois qu'on garde 8 minutes d'archives sonores de Sisulu, c'est plus que Mandela. Parce que Sisulu, c'était un peu le cerveau du groupe, c'était le stratège, c'était un peu l'homme qui murmurait à l'oreille de Mandela, mais lui ne souhaitait pas la lumière, il ne souhaitait pas les projecteurs, et il était aussi réaliste. Sisulu n'a pas fait d'études. Mandela, lui, a fait des études d'avocat. Et lorsqu'il a rencontré Mandela, Sisulu, dès les premières fois, s'est dit, voilà l'homme qu'il nous faut. Ce sera lui le porte-drapeau. Ce sera lui notre figure de proue. Parce qu'il est articulé, parce qu'il peut incarner le mieux notre discours de façon intelligente et construite.
Et quand Mandela prononce cette fameuse phrase, nous sommes prêts à affronter la mort s'il le faut, il parle au nom des neufs. C'est vraiment un collectif. Il n'y a pas eu de défaillance. Ça a été l'une des forces, l'une de leurs victoires.
Mandela, oui, est désigné pour faire un discours du banc des accusés. Et donc, pendant le procès, Nelson Mandela lit un discours de politique générale, finalement, pendant 3h30. Et c'est un discours qui a été annoté par les avocats, mais aussi par les co-accusés. Et Mandela est désigné pour lire ce discours au nom du collectif. Il n'y a pas de défaillance. J'irai même au-delà. Les co-accusés font preuve d'une solidarité qui force l'admiration, puisque, par exemple, Ahmed Kathrada, le dossier d'accusation qui le visait était complètement vide. C'est-à-dire que Kathrada aurait pu dire, écoutez, les copains, moi, je vais adopter une défense sur mesure, parce qu'ils n'ont pas de pièce à conviction contre moi. Moi, je suis disciple de Gandhi. Les opérations de sabotage, ça ne m'intéressait pas. Mais non, Kathrada justifie la campagne de sabotage. Il dit même que théoriquement, si on parvenait à le convaincre que des actions de guérilla pouvaient très rapidement mettre à terre l'apartheid, alors il dirait « commençons la guérilla demain ». Il dit même à un moment au procureur, c'est assez amusant, « mais moi, vous savez, je serais prêt à accepter l'assistance du diable pour vaincre l'apartheid ». Et donc, naturellement, Kathrada, en prononçant ces phrases, aggrave son cas. Kathrada refusera de faire appel, d'ailleurs, pour rester avec ses copains, pour être solidaire avec ses copains. Il en paiera le prix lourd, parce qu'il a eu la même peine que Mandela. Il a passé, comme Mandela, plus d'un quart de siècle en prison. Alors que, comme Mandela, il avait une fiancée, il avait des amis, il avait une mère, il avait des nièces.
Et devant la caméra, plus de 50 ans plus tard, il vous fait cet aveu parce que je n'étais pas africain moi-même, parce que j'étais indien, je devais être encore plus solidaire que les autres.
Oui, c'était une lutte arc-en-ciel finalement. Et c'est ça aussi la balle que se tire dans le pied le régime apartheid en organisant ce procès collectif. Parce que sur le banc des accusés, il y a des blancs, il y a des communistes, il y a
oui,
des
y a
juifs.
Il y a Goldberg.
Il y a Goldberg, il y a Bernstein, juif communiste, il y a un indien, il y a un métis, Sisulu. Donc il y a toute l'Afrique du Sud qui est représentée sur le banc des accusés. Alors que le régime avait cette stratégie classique qui consistait à diviser pour mieux régner. Les Katrada, oui, avaient cherché à mobiliser pendant les campagnes de désobéissance civile et se rendaient dans les townships noirs. Et il se dit, mais si au moment où il faut prendre un risque et se sacrifier, je lâche les copains, je ne suis pas crédible et c'est un très mauvais message que j'envoie. Donc je reste solidaire.
Message de Gandhi, en fait.
Quelque part.
Et puis arrive le jour du verdict et cette chose incroyable, ils ne sont pas condamnés à mort. Le juge De Wet, c'est ça ?
Quartus De Wet.
Quartus De Wet a cette phrase, c'est la seule indulgence que je puisse avoir aujourd'hui, je vous condamne à la peine à perpétuité, je ne vous condamne pas à mort. Alors pourquoi cette décision ?
Alors on n'a pas le fin mot de l'histoire, c'est-à-dire que je ne peux pas vous répondre avec autorité. Ceci étant dit, le juge Quartus De Wet avait prononcé dans toute sa carrière une seule fois la peine de mort, c'était dans un cas où c'était la seule peine possible. Quartus De Wet a été nommé avant l'arrivée des nationalistes blancs au pouvoir, donc il fait partie de cette ancienne garde de juges pour qui il s'agissait d'appliquer le bon droit. C'est-à-dire que ce n'est pas une nomination
politique. Il est africaneur,
il est africaneur. Ensuite, il y a la pression internationale, pression organisée de façon publique lors d'une résolution aux Nations Unies, une mise en garde de l'ambassadeur américain notamment.
Que l'on voit dans votre film.
Que l'on voit pendant le film.
Johnson est président des États-Unis à l'époque.
Voilà, et pression par l'intermédiaire du MI5 britannique, des services secrets. On ne sait pas si le régime a compris que les envoyer à l'échafaud allumerait une espèce d'ébullition contestatrice à travers le pays. On ne sait pas s'il y a eu des menaces de sanctions économiques. Toujours est-il que cette condamnation à mort n'a pas été prononcée ce jour-là.
Le choix d'en faire un procès politique, c'est peut-être ça qui leur a sauvé la vie ?
Certainement. Les journalistes internationaux qui étaient présents peut-être, les ambassadeurs. Je sais que l'ambassadeur des Pays-Bas n'a pas manqué une seule journée d'audience. Ça, les accusés s'en souviennent. Andrew Mlangeni, l'accusé numéro 10, parle souvent de l'ambassadeur des Pays-Bas qui était là même quand il grelottait dans la salle.
Ce sont des hommes qui parlaient la même langue que les Africains.
Qui parlaient la même langue. C'est-à-dire qu'il y a ce choix de faire du procès une tribune contre l'apartheid, mais il y a également leur intelligence de situation qui est immédiate et qu'on entend sur la bande, parce que la bande ne ment pas. Et on entend le procureur qui perd son sang-froid et qui est coincé par des accusés plus intelligents que lui, alors que lui les présente comme des barbares. C'est immédiat, ils ont une répartie folle.
Oui, c'est vrai.
Et là, ils marquent beaucoup de points.
Le dialogue entre le proc et Sisulu est extraordinaire pour ça.
Oui. De ce point de vue-là, oui. Tout cela devant le juge qui devait noter et prendre des notes. Et ça a certainement orienté son choix.
Nicolas Champeau, bravo et merci.